Alors, on va passer à deux humanistes maintenant. Je serai moins long sur eux. Boès et Cassiodore. Alors, Boès, pour ceux qui étaient avec la Scola cet été en Lombardie, enfin, plus qu'en Lombardie, parce que là, pour le coup, c'était même Non, c'était en Lombardie. Puisqu'il est enterré à Pavie. En même temps que Saint-Augustin et que le roi lombard Liutprand, qui leur a fait édifier leur tombeau. Donc Boès, 475 ou 480, on n'est pas bien sûr, 525. Alors il s'appelait Anicius Manlius Torquatus Severinus Boétius. Alors, il appartient, alors beaucoup de noms, ça signifie qu'il appartient à une famille de très haute aristocratie, une famille sénatoriale qui a donné des sénateurs, des consuls et même deux empereurs. Alors, c'était un homme de très haute culture et qui avait d'immenses richesses. Vous voyez, l'Empire finissant, c'est un peu comme la mondialisation. Hein, c'est l'écart des revenus. C'est un peu. Enfin, je pense qu'à la République romaine, à l'époque de la République romaine, les revenus, l'écart, l'échelle des revenus, devait, l'échelle des, oui, devait être un petit peu moins grande. Donc, il avait en fait quasiment en propriété des provinces entières. Hein. Donc, il est élevé par son beau-père, le consul Symmaque, arrière-petit-fils du consul. Symmaque également, qui s'était opposé à Saint-Augustin sur la question de l'autel de la victoire. Vous vous souvenez, l'autel de la victoire qui avait été retiré par l'empereur, devenu chrétien, et qui, après l'affaire de 410, la pillage de Rome, la vieille aristocratie païenne avait dit, mais voilà, à force de ne pas honorer nos dieux, eh bien, ils nous ont abandonnés et Rome est tombée. Et donc, c'était le consul Symmaque, donc l'arrière-grand-père de ce Symmaque-là, beau-père de Boès, qui avait mené la fronde néo-païenne, enfin la fronde païenne, contre le christianisme. Souvenez-vous que c'est l'époque où, justement, Saint-Augustin, Saint-Jérôme vont combattre cette doctrine. Alors, Boès est marié et il est consul en 510. Donc, vous voyez, oui, mais les titres se transmettaient. Les titres continuaient. Oui. Il continuait à se. Il y avait toujours la fiction de l'Empire. Et donc le titre, comme d'ailleurs, par exemple, le père de Clovis était aussi consul. Mais donc voilà. Alors plutôt qu'un père de l'Église, c'est certainement avec Cassiodore, qu'on verra après, le dernier témoin de la romanité. Alors consacrer son otium à des traductions du grec et du latin. Il va traduire Platon, du grec, je veux dire, en latin. Il va traduire Platon et Aristote, par exemple, cherchant à montrer leur accord. Il va rédiger des manuels pour l'enseignement des arts libéraux. Et il fut le premier à appeler quadrivium les quatre disciplines supérieures des arts libéraux, c'est-à-dire l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Et les autres, ce qu'on appellera le trivium, sont les artes, comme on dit, sermocinales, les arts du langage, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et il y a encore quelques décennies, c'était les noms des classes, oui. Par exemple en Belgique ou en.
La rhétorique, ça existait en France aussi. C'était la première.
Oui, c'est ça. Alors,
C'était vraiment,
grammaire,
après tout, c'est la zoologie.
rhétorique et dialectique.
L'humanité, c'était la première. Et la troisième, c'était philo.
Oui, c'est la classe de
La
philo, c'est
rhétorique,
la
humanité et
dialectique.
philo. Voilà.
Rhétorique, c'était la classe précédente.
Les
Voilà. Et puis, les classes précédentes, c'était l'apprentissage de la langue, c'est la grammaire. Alors, il est même devenu, on peut dire, le père de la logique médiévale grâce au langage qu'il a introduit. La caractéristique de Boès, c'est moins d'être un chercheur que d'être un professeur. C'est déjà quelqu'un qui fait l'inventaire du savoir et qui va comment dire, l'exprimer dans un langage rigoureux. Voyez? Donc un vocabulaire précis et immuable. Autrement dit, il va ordonner le savoir. C'est un petit peu comme ça que se termine la patristique avec, par exemple, un Isidore de Séville ou même un Saint Jean de Damas, hein, qui fera le dernier grand inventaire de la pensée orientale. Donc, ce que cherche à faire Boès, c'est dissiper le demi-savoir basé sur la rhétorique, en se fondant sur la dialectique, c'est-à-dire la logique. Alors, sa vie va basculer à cause de la politique. Un empereur d'Orient, favorable aux catholiques, fait craindre au roi arien Théodoric, qui avait continué justement de donner les titres anciens, une menace de complot fomentée par l'aristocratie catholique. Donc, l'empereur d'Orient, favorable aux catholiques, correspond plus facilement avec l'aristocratie catholique d'Italie. Du coup, l'empereur germanique, le roi germanique Théodoric, Ostrogoth, s'inquiète en disant, ils vont probablement s'entendre sur mon dos pour parce que les Byzantins étaient toujours à l'affût de remettre le pied en Italie. Donc il craint effectivement un coup d'État de la part des catholiques. Alors, pourtant, Théodoric, qui ne peut pas trop s'appuyer sur les Ostrogoths pour administrer la riche Italie, mais bien sur les Romains quand même, en 1522, va nommer les deux fils de Boès consuls. Et lui-même est chancelier du royaume. Alors, comment les choses vont-elles se passer? Eh bien, un courrier du Sénat adressé à l'empereur Justin, byzantin, annonçant l'élection du pape Jean Ier est utilisée par des ennemis qui jalousent Boès pour le faire accuser de haute trahison. Donc Boès avait envoyé un courrier. Eh bien, ses adversaires, enfin, qui le jalousent, vont, vous savez, l'ère de la calomnie, vont laisser croire à Théodoric que c'est un courrier par lequel le chancelier est en train de s'allier avec l'empereur pour chasser la dynastie ostrogothe d'Italie. Et de fait, la noblesse distinguait de Boès indisposait un certain nombre d'arrivistes voilà, qui s'était mis à le haïr en quelque sorte. Et là, ça va marcher parce que Théodoric, qui est quand même méfiant, va faire emprisonner Boès et il sera finalement exécuté à Pavie. Du coup, il est enterré. Vous vous souvenez, on avait vu, il y a les rois lombards avaient fait revenir de Sardaigne les reliques de Saint-Augustin, et dans la crypte, il y a les reliques de Boès. Et le pape Jean, Jean Ier va mourir aussi en prison parce qu'il va être aussi victime de cette conjuration contre Boès. Du coup, Boès va apparaître comme le dernier flambeau de cette antique civilisation romaine que le roi Odoacre avait épargné, mais que les campagnes de Justinien allaient... Ah oui, tiens, un gilet jaune, oui. Et donc que les campagnes de l'empereur Justinien allaient bientôt dévaster. Il va y avoir ce qu'on a appelé la guerre gothique dans l'Italie, où pendant 20 ans, les Ostrogoths et les Byzantins vont ravager toute l'Italie et la laisser dans un état exsangue. D'ailleurs, je me pose la question, mais en 1943, comme par hasard, il y a une des lignes de défense de l'Italie contre les Anglo-Saxons, s'appellera la ligne gothique. Alors ça doit être un lointain souvenir que l'Ocave devait avoir de la domination ostrogothe ostrogothique en Italie. Alors, donc on peut dire de Boès qu'il fut un martyr tant de la vieille civilisation romaine que finalement du christianisme, que du catholicisme. Il nous a laissé des écrits de théologie trinitaire. Il avait pris part à la controverse du théopachisme, vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est cette théorie qui disait « Puisque le Christ a souffert, c'est que Dieu a souffert. » Donc Dieu souffre, mais seulement sans l'idée de communication des idiomes. L'idée de communication des idiomes, c'est dire Dieu souffre, oui, mais dans la personne du Fils, dans l'humanité de son Fils. Alors, tandis que là, on a tendance à dire, puisque l'humanité du Christ a souffert, c'est tout Dieu qui a souffert. Hein, c'est la divinité a souffert. Donc, là, évidemment, Boès va réfuter cette hérésie. Mais son œuvre, finalement, la plus connue, la plus célèbre, c'est cette peut-être l'œuvre qui est l'œuvre qui est la plus de circonstances, c'est en fait ce qu'il a écrit en prison, peu de temps avant son exécution, c'est le De Consolatione Philosophiae, hein, de la consolation de la philosophie. En prison. En prison, oui. Tu n'avais pas étudié ça, toi, quand tu étais en philo, justement? Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas sans ressemblance avec les confessions ou les soliloques de saint Augustin. Et donc, il va tourner désormais le dos au monde, ce monde qui a été l'occasion de sa chute. Et il s'interroge, pourquoi Dieu permet-il que les méchants soient prospères et que les bons soient malheureux? Et il va d'abord chercher la consolation auprès des muses, auprès des arts. Puis lui apparaît une femme âgée, la philosophie personnifiée. Et là, donc il y a les cinq livres. Le premier livre où il va dire « Dieu existe et il dirige le monde dont il est le créateur ». Donc il y a bien une providence. Dieu n'est pas lointain du monde, il ne s'en désintéresse pas. Ensuite, dans les livres 2 et 3, il va dire qu'il y a une distinction entre le bonheur apparent et le vrai bonheur, que le vrai bonheur ne peut dépendre du destin et ne saurait être donc quantitatif. Donc, le vrai bonheur ne réside pas ni dans la richesse, ni dans la santé, ni dans les biens matériels, en un mot. Le seul bien parfait est Dieu, et Dieu seul peut combler notre vrai désir et être la vraie cause de notre bonheur. Voilà. Alors après, dans le livre 4, il s'interroge sur le mal, et comme Augustin, il va dire que le mal n'a pas d'existence propre, Donc le mal parasite le bien. Et il va plus loin en disant que le méchant est en fait le vrai malheureux parce qu'il ne cherche pas Dieu. Celui qui fait le mal, finalement, ne s'aperçoit pas qu'il est malheureux. Et dans le dernier livre, livre 5, c'est le problème de la liberté de l'homme et de la prescience divine, donc toujours la question la plus dure de la théologie. Et il dit, ce n'est pas parce que Dieu connaît tout dans un unique instant qu'il prédestine l'homme et le rend ainsi irresponsable. Non, l'homme est responsable de ses actes et donc de son bonheur. Il a bien une liberté. Et l'exercice de la liberté de l'homme ne s'oppose pas à la prescience et à la toute-puissance divine. Alors, on a fait remarquer que dans cette consolation d'allure très philosophique, eh bien, platonicienne même, Boès ne cite jamais le Christ. Vous voyez, Boès va se situer face à la mort comme philosophe, mais ce qui ne l'empêche pas non plus d'être chrétien dans sa manière de philosopher. Et d'ailleurs... Comment ?
C'est moderne dans ce sens-là ?
Oui, bah on peut...
De voiler un peu...
Oui, voilà, il ne... Et en tout cas, certains ont dit, en fait, il était retombé dans le paganisme, dans le scepticisme platonicien, etc. Mais d'un autre côté, on fait observer que pas un seul élément du paganisme classique romain n'apparaît dans le De Consolatione, ni aucune je dirais, rien de païen, en somme. Certains finissent par dire qu'il a tellement bien intégré son christianisme qu'il n'a même pas besoin de citer les textes pour que ça transpire à travers sa pensée philosophique. On pourrait dire que Boès a intégré sa foi chrétienne dans le De Consolatione, dans la forme philosophique antique. Et Hanson Kampenhausen, patrologue allemand, dit « Les grandeurs qui servent de fondement au salut du chrétien sont ici absentes. Boès n'a besoin d'aucune aide extérieure, d'aucune révélation, d'aucune transformation et rénovation historique. Il a encore moins besoin d'une authentique transformation de son humanité personnelle ».